Soyez les bienvenus sur Radio Grand Air. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Grand Air, votre web radio en pays foyen sur radiograndair.fr.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Grand Air, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission de ce lundi 9 décembre, c'est très chargé. Dans un instant, spécial Miss France avec Vaïma Lama Chavez qui sera notre invitée exceptionnelle accompagnée de nos trois Miss régionales. Alison Salapic, Miss Limousin, Justine Delmas, Miss Aquitaine et Andrea Galland, Miss Poitou-Charente. Nous aurons le plaisir aussi de consacrer une partie de cette émission au film Docteur qui sort mercredi dans les salles avec Tristan Seguela, le réalisateur, et Hakim Djemili, le comédien principal du film aux côtés de Michel Blanc. Nous aurons le plaisir de recevoir Stéphane Guillon aussi pour le bazar de la charité et Laurent Voulzy qui sera avec nous, qui est en concert un peu partout en France dans les plus belles cathédrales. On en parlera bien évidemment avec lui. Alors on démarre sans plus tarder avec les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence avec lundi dernier, le bazar de la charité qui est toujours en tête des audiences avec 6 603 000 téléspectateurs et 26,4% de part de marché. Déception pour la série The Fix sur France 2 avec seulement 1 930 000. Mardi, il y avait Los Angeles Bad Girl et c'est un beau succès. 4 270 000 téléspectateurs pour TF1 et 18% de part de marché. La France a un incroyable talent avec la demi-finale est à 2 912 000 téléspectateurs tandis que Rendez-vous en Terre Inconnue fait 3 600 58 000. Mercredi, il y avait New Amsterdam sur TF1 avec 3 798 000 téléspectateurs et 16% de part de marché. Grosse déception pour M6 et sa fiction prise au piège avec même pas 2 millions de téléspectateurs et seulement 8,2% du public. Balthazar, toujours très en forme jeudi sur TF1 avec 6 698 000 téléspectateurs et 29,2% du public. Et un petit score pour Rock'n'Roll et 1 898 000 téléspectateurs et un petit 9,2% de part de marché. Mask Singer arrive d'une courte tête vendredi en tête des audiences. Et on accueille tout de suite notre star. Et oui, c'est notre Miss France 2019. C'est Vaïma Lama Chavez qui arrive tout de suite. Et dans quelques jours, eh bien, c'est l'élection de Miss France en direct du Dôme de Marseille. Et je suis pas peu fier de la recevoir à nouveau dans cette émission. C'est presque une habituée maintenant. Et tu seras tout le temps la bienvenue chez nous. Vaïma Lama Chavez, bonjour.
Coucou Alain, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Je te le dis, franchement, t'as été une Miss extraordinaire. Une année incroyable. On a passé des moments ensemble toute l'année sur des manifestations. Quel regard tu portes sur cette année maintenant écoulée, avec toutes les rencontres, les belles rencontres que tu as pu faire avec les gens, les associations, les médias, il s'est passé tellement de choses.
Ouh là là, ça va être difficile à résumer. Je pense que je regarde l'année qui vient de passer avec de la nostalgie, évidemment, parce que évidemment nous sommes presque à la fin, puisque dans une semaine, je vais trouver ma remplaçante. Néanmoins, c'est aussi avec beaucoup de joie que je le fais, parce que il y a un temps pour chaque chose. Et mon temps en tant que Miss France est presque terminé. Et il est temps pour une nouvelle Miss France de devenir et d'être sur le devant de la scène nationale pour faire briller les valeurs que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Nous sommes à quelques jours de l'élection. Je sais que j'ai beaucoup changé, que j'ai beaucoup appris, que j'ai beaucoup pris en maturité, que j'ai pris beaucoup de hauteur du haut de mon 178 cm. Plus les 10 cm de talons et les 10 cm de couronne. Ça fait presque 2 mètres quand même. Et surtout, beaucoup de souvenirs qui se sont accumulés au cours de cette année qui m'ont fait bien mûrir et dont je suis extrêmement fière.
Alors toi qui luttes énormément contre le harcèlement scolaire, qui a vécu des choses difficiles, c'est tellement une belle revanche, tous ces sourires que tu as pu croiser toute l'année et tout l'amour que tu as reçu du public.
Alors, il est vrai que mes années au collège n'étaient pas forcément évidentes. Néanmoins, il ne faut pas appeler ça une revanche parce que ça veut dire qu'on l'a encore qui pèse sur le cœur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, mais c'est quelque chose qui fait partie du passé. Nous sommes dans le présent et c'est un cadeau du temps. Nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2019. Je suis Miss France et heureuse de pouvoir représenter les valeurs d'un pays aussi fort.
Je suis certain que toute ton île de Tahiti, que la Polynésie française est tellement fière de toi aujourd'hui. Quand tu y as été, ça a dû être à chaque fois une fête cette année.
Alors oui, non, parce qu'effectivement le premier jour c'était en officiel, enfin la première fois que je suis rentrée. Et c'est vrai qu'il y avait du monde. Néanmoins, quand je rentrais un petit peu plus en secret en Polynésie, bon là j'essayais de me cacher un petit peu derrière mon grand suite et tout, quand je rentrais pour mes vacances, parce que voilà, ce qui est important pour moi c'est de passer avec un moment avec ma famille par exemple. Et à partir du moment où c'est un moment qui est dit officiel, du coup je passe plus de temps avec d'autres personnes et pas ma famille. Et étant donné que j'étais à 18 000 km d'eux pendant presque un an, c'était pas tous les jours évident.
Quelles ont été tes plus belles rencontres, quoi, toi qui as pu rencontrer plein de stars du monde politique? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont plus impressionné que d'autres?
Alors, c'est vrai que j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui sont dites influentes. Néanmoins, je pense que mes plus belles rencontres restent dans le cadre professionnel. Il y a Sylvie Tellier, évidemment, qui est la directrice de Miss France Organisation. Olivier Noël, qui a été mon chaperon, qui m'a accompagnée sur toutes les routes, dans toutes les régions, et avec qui on a pu découvrir toutes les gares de la France, et de métropole, et parfois les aéroports des Antilles et des Outre-mer. Il y a Estelle Sabatier qui m'accompagne pour tout ce qui est événementiel et représentation. Il y a Léa Merlot qui s'occupe du digital et Mélissa Hernandez qui gère les partenariats. Et j'ai eu l'occasion de vivre, de travailler avec elle et de découvrir des personnes extraordinaires, ainsi que Justine Dubourg qui s'occupe de tout ce qui est médias. Et je repartirai cette année avec de nouveaux liens et de nouvelles relations, de nouveaux amis. Et je suis très heureuse d'avoir pu prendre part à cette aventure.
Alors samedi, la nouvelle Miss France sera élue. Quel sera le premier conseil que tu lui donneras?
Tous les jours ne seront pas roses. Évidemment, il y aura un moment où peut-être que tu auras besoin de te poser. Je serai là pour t'accompagner.
Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. On le sait, Miss France, c'est la fin samedi de quelque chose. C'est aussi le début d'autre chose à partir de dimanche. Pour toi, tu as fait une première participation dans un téléfilm tourné à Tahiti, Un meurtre à Tahiti. Est-ce que tu as envie de te lancer dans le cinéma, dans la télévision en tant qu'actrice? Non, tu verrais bien en tout cas.
Eh bien, pas du tout. Parce que figurez-vous que j'ai découvert que je n'étais pas faite pour tourner des films. Je trouve que ça demande quand même beaucoup de patience, beaucoup de facultés cognitives qui doivent être stimulées constamment. Parce que voilà, il faut pouvoir retenir sa phrase, il faut pouvoir agir avec le faciès et tout. Il faut avoir des actes qui soient cohérents avec le film et en même temps s'approprier toute l'histoire. Et puis non, hein, je suis pas assez douée pour ça, juste.
Qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite?
Il y a plusieurs projets qui se profilent à l'horizon et pour le coup, j'aimerais bien reprendre mes études pour l'année prochaine. Par exemple, en sciences politiques. Ce serait cool, hein.
Ça serait bien et surtout continuer à lutter contre le harcèlement scolaire. Je sais que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Et là, avec un règne comme tu viens de faire, je suis sûr que tu vas faire avancer plein de choses.
Eh bien, c'est un phénomène de société qui est de plus en plus présent. Et je parle du harcèlement. Néanmoins, il est vrai que comme l'éducation est pour moi ce qu'il y a de plus important dans une société, c'était important de diriger ce problème-là et de mettre en lumière celui qui est dans l'éducation, donc le harcèlement scolaire. Et on a découvert que 55% du harcèlement se fait sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de démarches à faire encore, beaucoup de choses à mettre en œuvre pour pouvoir mettre les gens en garde face au danger que peut avoir Internet et surtout éduquer les générations qui arrivent pour qu'elles puissent être suffisamment fortes pour continuer le combat qu'on mène et qu'ensemble nous puissions construire et reconstruire une nation qui a été cassée par pas mal de choses.
Dernière question, Vaille, avant de se quitter. Samedi soir, tu rentres à Couronne. Dimanche matin, quelle est la première chose que tu as envie de faire? Sauter dans un avion pour aller retrouver ta famille à Tahiti pour les fêtes, par exemple?
Alors oui, aussi, mais étant donné que samedi soir, ça va être l'élection et qu'après il y aura l'after. Je pense que dimanche matin, je serai encore à l'after. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un petit snack qui était pas loin, qui faisait de super bonnes glaces. Donc j'irai dans ce snack et je me mangerai une glace, même en hiver, c'est pas grave parce que j'aime trop ça. C'est pas grave du tout, du tout. Et je vais me faire plaisir, en tout cas, je crois que je vais faire ça, je vais aller dormir, je vais sûrement essayer de voir si je peux aller à la mer ou dans un sauna, mais alors là, ça va être détente, éclat total, ça va être génial.
Et bien, on te souhaite plein de belles choses, en tout cas. Merci à toi, Vaille Malama, d'avoir été avec nous et d'avoir si bien représenté notre pays pendant cette année-là. On se retrouve très vite.
Merci Alain. Oui, à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Et ça, c'est le premier extrait du très bel album de Vaïma Lama Chavez qui vient de sortir dans les bacs. N'oubliez pas de vous le procurer. Et tout de suite, eh bien, dans un instant, nous allons recevoir nos trois Miss régionales. Alors ne bougez pas, on revient dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Notre spéciale Miss France reprend dans Chut, on écoute la télé. On est à 5 jours de l'élection qui aura lieu au Dôme de Marseille. Nous y serons pour soutenir eh bien, nos candidates de Nouvelle-Aquitaine, notre Miss Aquitaine, Justine Delmas, qui nous rejoint justement. Bonjour Justine.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous à 5 jours de l'élection. On va voir Alison d'ici quelques instants, notre Miss Limousin. Et on va voir bien sûr Andréa Galland qui va nous rejoindre également, notre Miss Poitou-Charentes. Justine, une unité, la Nouvelle-Aquitaine en force. Et j'espère qu'il y en a une qui va en tout cas, debout trois, nous ramener la couronne. C'est tout ce qu'on espère. Mais là, un petit retour sur cette aventure absolument incroyable. 14 septembre, Bergerac. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette soirée?
Eh bien, l'élection Miss Aquitaine s'est très très bien passée. Pour moi, donc c'était la troisième fois que je me présentais à une régionale. Donc j'y suis allée moi-même, on va dire, au naturel. J'ai voulu rester avec ma vraie personnalité et ça s'est très 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 bien passé. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être élue donc Miss Aquitaine, de rendre fier mon entourage et puis très fière de représenter ma belle région. Je suis née à Bergerac. J'y étais aussi au lycée. J'y ai vécu pendant quasiment 20 ans. Et puis j'ai suivi donc mes études ensuite à Périgueux en licence de droit. Je suis en troisième année, donc je suis toujours restée dans mon Périgord qui me tient vraiment à cœur, tout particulièrement Bergerac, où voilà, j'ai donc bien entendu été élue Miss Aquitaine, donc dans ma ville natale.
Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Alors ça fait quasiment un mois qu'on n'avait plus de tes nouvelles, on vous voit à la télé hein, quasiment tous les jours. Dans les journaux, un mois de préparation à Miss France, comment tu te sens là, 5 jours de l'élection? Pas trop fatiguée?
Non, que de la bonne énergie, c'est vrai que je pense que on a vraiment toute hâte, on n'est pas forcément, enfin moi personnellement pas forcément stressée, je stresse toujours au dernier moment, pour l'instant je profite un maximum, c'est de la bonne fatigue, tout va très bien pour le moment et j'ai vraiment hâte, je suis très impatiente.
Alors les images de Polynésie, tu as dû en revenir mais complètement émerveillée, c'est comment la Polynésie? En plus sur les terres de Vaille, on peut pas rêver plus beau voyage de préparation.
Ah oui tout à fait, c'est... vraiment ben, une île paradisiaque, il fait beau, il fait chaud, on a passé vraiment de très bons moments avec un paysage juste fantastique, donc j'ai déjà envie d'y retourner vers la chaleur et j'espère que ce sera très très vite, mais en tout cas c'était un très beau voyage.
Comment tu appréhendes toi une émission en direct sur TF1?
J'appréhende mais positivement on va dire, parce que c'est quand même plus de l'excitation qu'autre chose. J'ai hâte d'entendre le public qui nous motive parce que c'est avant tout ce qui nous donne la force et le courage de vouloir tout donner sur un direct. Mais on a été vraiment très bien accueillis, très chaleureusement à Marseille. Donc merci à eux pour cette belle accueil.
C'était un rêve de petite fille pour toi de te présenter à Miss France?
Oui, tout à fait. Depuis toute petite, je regarde Miss France à la télé en famille. Et puis je me suis toujours dit qu'un jour... lorsque je serai majeure, vu que j'avais la taille, que je tenterai. Donc c'est un petit rêve de petite fille qui se réalise.
Bon, en tout cas, vous êtes trois, on le disait, à représenter la région. Alors j'espère qu'en Polynésie, il s'est fait des amitiés, une vraie unité au niveau de la région. Vous allez vous battre pour la Nouvelle-Aquitaine, toutes les trois. En tout cas, nous, on vous espère un top 15, un top 5. Et la chose qu'il faut faire, si on te retrouve dans le top 15 et le top 5, il faut voter. Voter Justine Delmas, notre Miss Aquitaine.
Oui, tout à fait. Donc, concernant les candidates, c'est vrai qu'on sent pas du tout la concurrence. On est devenu vraiment un bon groupe de copines. Donc, il y a une ambiance vraiment qui rassure et qui nous fait passer d'excellents moments. Et puis, pour le soir même, en effet, il faudra, à partir du moment où je l'espère, peut-être, je serai dans les 15. Et à ce moment-là, il faudra voter par SMS. Donc, je compte sur tout le monde pour voter pour moi.
Et tu pourras compter sur nous, bien évidemment, pour te soutenir au Dôme de Marseille. Ça sera donc samedi soir et en direct sur TF1. On va passer un petit coup de fil à ta copine Alison Salapic. C'est notre Miss Limousin de notre région. Merci Justine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Merci beaucoup et puis me souhaiter je pense une excellente soirée, même si je je suis sûre que ce sera le cas et me souhaiter peut-être, on ne sait jamais, avoir la couronne sur la tête.
C'est tout ce qu'on t'espère. À tout de suite avec Alison Salapic.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on continue notre spécial Miss France dans Chute, on écoute la télé. Alors après notre Miss Aquitaine, Justine Delmas qui était avec nous il y a un tout petit instant, et bien c'est Alison Salapic qui nous rejoint, c'est notre Miss Limousin 2019. Bonjour Alison.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Andrea va nous rejoindre également dans un tout petit instant, notre Miss Poitou-Charentes 2019. Un petit retour d'abord avec toi en arrière, Alison, puisqu'on va retourner au 4 octobre. C'est le jour où tu as été élue Miss Limousin 2019. Et à ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête, Alison?
Tout est bousculé. C'est vrai que moi, j'ai été quand même assez surprise. Je t'ai vu d'ailleurs sur les vidéos. C'est vrai que je m'y attendais pas et on a quand même beaucoup de mal à réaliser un bon moment. Il n'y a que quand on se lance dans l'aventure Miss France qu'on comprend qu'on en est là, enfin.
Ça représente quoi pour toi, justement, Miss France? C'est un rêve de petite fille ou c'est venu plus tard, cette envie de participer?
Non, c'est venu très tôt. Moi, j'ai toujours suivi l'élection de Miss France depuis toute petite. Même encore l'année dernière, je regardais avec ma meilleure amie en hurlant devant la télé parce que Aude, notre Miss Limousin 2018, était élue du coup quatrième dauphine de Miss France. On écoute ses conseils à la lettre et je pense qu'on peut pas avoir un meilleur coach, ça c'est sûr.
Bon, ce qui est bien aussi, c'est que dans les comités, voilà, vous avez aussi, vous pouvez aussi bénéficier en tout cas des conseils des anciennes Miss. Et quel est justement le premier conseil qu'a pu te donner Aude?
De rester moi-même. C'est une aventure qu'on doit vivre, qu'on vit qu'une fois. De pas être nous-mêmes, des fois, on s'en perdrait, quoi. Et puis on serait déçus, je pense, à la fin de l'élection de Miss France.
Comment tu appréhendes une émission comme ça, en direct, avec des caméras de télévision partout?
Oh, bien sûr. En plus, on est quand même sur TF1, donc la grosse chaîne. Non, franchement, il y a beaucoup de stress et bah, après, je pense qu'il faut s'amuser et penser à nous toutes et à la cohésion qu'il y a dans le groupe. Et voilà, quoi.
Alors, un voyage en Polynésie dont vous venez de revenir il y a quelques jours. Là, c'est une préparation intensive. Là, c'est pareil, aller en Polynésie sur les terres de Vaille. Vous avez dû tout simplement passer des moments incroyables là-bas.
Oh, tout à fait, c'était magnifique. Puis on y retournerait bien.
Alors, le public du Limousin, bien évidemment. Hein, Alison compte sur vous puisque samedi soir, s'il y a un top 15 cette année, puisque c'est un top 15 ou un top 5, eh bien Alison comptera sur vous. Il est important, voilà, quel est le soutien en tout cas de sa région. Quels sont les premiers retours des gens qui sont venus te voir lors des premières manifestations après ton élection de Miss Limousin?
Moi, c'est vrai que du coup, j'ai une particularité. C'est que je suis creusoise, donc c'est pas souvent qu'une Miss Limousin est élue creusoise. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de sorties en Creuse, où les gens sont venus me voir et m'ont félicité, sont très fiers de moi. Et c'est là aussi où j'ai vu que le public creusois était à fond derrière moi et ça fait énormément plaisir. Il y a un gros soutien de leur part et même du coup du Limousin tout entier, de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis bon, c'est sûr que... J'espère que au moins de nous trois, de Poitou-Charentes et d'Aquitaine, on ira le plus loin possible et on saura vous rendre fiers.
Quelle est la première cause que tu as envie de défendre dans le cas où tu es élue Miss France samedi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu veux vraiment mettre à profit un peu cette notoriété?
Moi, c'est surtout les valeurs de la femme parce que j'ai eu la chance de partir au Sénégal en été dernier en mission humanitaire et c'est vrai que du coup, j'ai vu une autre façon de faire, d'autres pratiques et tout ça et j'ai été beaucoup choquée par la femme et la vie de la femme, en tout cas en communauté là-bas. Et même en France, il y a encore quelques soucis et c'est ça que j'aimerais défendre le plus en tout cas.
Eh bien écoute Alison, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter très très bonne chance. Bien évidemment, le Limousin compte sur toi. Et puis nous, eh bien on sera à Marseille, bien évidemment, pour te soutenir samedi au Dôme.
Eh bien merci beaucoup et puis on se donnera à fond en tout cas pour la Nouvelle-Aquitaine.
On compte sur vous. Merci à toi Alison et Andrea Galland, Miss Poitou-Charentes 2019, va nous rejoindre tout de suite dans Chute, on écoute la télé. À bientôt Alison.
À bientôt, merci pour tout.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Allez, on va terminer eh bien cette belle spéciale Miss France avec notre Miss Poitou-Charentes qui nous rejoint ce coup-ci. C'est Andrea Galland qui est avec nous. Bonjour Andrea.
Bonjour, bonjour.
Toujours à quelques jours de l'élection Miss France, hein, ça y est, c'est samedi au Dôme de Marseille. Après Justine et Alison, nos trois Miss régionales de Nouvelle-Aquitaine vont tout tenter pour remporter la couronne Miss France. Et Andrea, je crois que tu es au taquet.
Ah bah oui, comme toujours et depuis le début, là ça y est, ça commence à se rapprocher vraiment. Mais voilà, la détermination est toujours bien présente et de plus en plus chaque jour et ça va très bien se passer, je le sens.
Ce voyage en Polynésie, je suppose que tu en es revenu des images plein la tête. Ça a dû être incroyable comme voyage.
Ah oui, franchement, c'était un de mes plus beaux voyages. J'étais ravie de découvrir la jolie île de Vaimalama. C'était magnifique, on a fait énormément d'activités. C'était un voyage très intense, mais alors inoubliable.
Et alors, depuis que tu as été élue, c'était le 6 octobre dernier, c'était à La Rochelle pour toi. Il s'est passé plein de choses, il y a eu des dizaines de manifestations qui se sont passées en région, un accueil du public toujours incroyable. Est-ce que toi, tu étais en préparation militaire pour intégrer la base des sous-officiers de Saint-Mexan? Parce que tu as créé un peu la surprise avec justement ce que tu es en train de faire.
Donc oui, c'est vrai que là, ça y est, hein, ça fait déjà un petit moment que j'ai été élue, ça passe très vite. Les sorties se sont faites elles se sont toutes très bien passées. C'est vrai que le public était très accueillant. Et oui, j'ai toujours créé un petit peu la surprise avec toutes les discussions que j'ai eues avec mon futur métier, qui est de devenir technicienne dans l'aéronautique sur hélicoptère. C'est vrai que les gens ne s'attendent pas spécialement à rencontrer une militaire et encore moins avec une écharpe de Miss. Mais voilà, hein, rien n'est impossible et les gens l'ont bien compris en discutant avec moi que c'est totalement complémentaire et que dans tous les cas, avec moi, ça fonctionne très bien.
Alors, est-ce qu'il y a des choses, si tu es élue Miss France samedi, quelles sont les causes qui te tiennent à cœur, celles que tu as envie de défendre?
Du coup, moi, avec ma carrière militaire, c'est vraiment la parité homme-femme. Donc, j'insiste vraiment sur le mot parité et non égalité, parce que pour moi, un homme et une femme ne peuvent pas être égaux dans le sens où un homme est un homme et une femme est une femme. On a chacun des qualités qui nous sont propres. Après, voilà, la parité homme-femme, absolument. Ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle et toujours dans notre société, qu'il y ait des choses du style pas le même salaire ou des choses... avec tous les progrès qu'il y a eu dans énormément de domaines, on en a encore à faire dans celui-là.
C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Andrea, là-dessus. Comment ont accueilli tes collègues militaires quand ils ont su que tu allais te présenter en tant que Miss et surtout quand tu as été élue Miss Poitou-Charentes?
C'est vrai que c'était une chose que j'appréhendais un petit peu au début. Après, franchement, ça s'est très bien passé. Ils ont été derrière moi et toujours actuellement. Hein, je reçois des messages très fréquents de militaires m'encourageant de part et d'autre de la France et même un peu plus loin. Donc non, ils l'ont tous très bien pris et je pense que voilà, de casser les codes, ça fait pas de mal.
Tu pensais, quand tu étais parmi les 16 prétendantes, peut-être avoir une écharpe de dauphine, encore, tu n'étais même pas sûre. Là, tu vas à la conquête de Miss France, vraiment avec l'idée de ramener la couronne. Quel est ton objectif, là, pour samedi ?
C'est vrai que j'ai une approche tout autre pour Miss France que j'avais à Miss Poitou-Charentes, dans le sens où Miss Poitou-Charentes, j'espérais avoir une écharpe de dauphine. Et c'est vrai, quand je n'ai pas été dans les dauphines, je me suis vraiment dit tout de suite, oh flûte, j'ai pas été élue, j'ai même pas d'écharpe, bon, tant pis, c'est pas grave. Là, j'y vais vraiment dans un esprit de compétition, mais attention à prendre dans le bon sens du terme. J'y vais déterminée, j'y vais pour ramener la couronne. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Après, est-ce que ça se fera ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai tout fait pour jusqu'à présent. Je vais continuer jusqu'à la dernière seconde du show. Voilà, je pense que le Poitou-Charentes le mérite. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une Miss France.
Depuis, 42 ans.
Depuis 77. Et je pense qu'il est temps, il est temps que je vous ramène la couronne.
21h05, c'est le rendez-vous, c'est samedi, c'est en direct de Marseille, c'est sur TF1. Le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, l'élection de Miss France 2020. Andrea, merci d'avoir terminé avec nous cette spéciale.
Merci beaucoup, merci de votre écoute et surtout n'oubliez pas qu'on a besoin de votre soutien, toutes les trois. C'est vrai que si on passe dans le top 15, on va avoir besoin de votre soutien, de voter. Alors n'oubliez pas, surtout, il faut nous soutenir. Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on continue à parler du bazar de la charité. Vous savez, c'est toutes les semaines depuis maintenant l'événement sur TF1 avec Stéphane Guillon qui nous rejoint pour en parler pour ces deux derniers épisodes que l'on verra cette semaine sur TF1. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous avec ce rôle de flic, le rôle de Sylvestre.
Sylvestre Aignon, qui est, paraît-il, un de ceux qui a créé les Brigades du Tigre.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller sur ce projet?
Ce qui m'a donné envie, c'est le scénario, d'abord. Je pense que la première chose qui donne envie, c'est est-ce qu'il y a un scénario, est-ce qu'il y a un texte, est-ce qu'il y a un personnage pour un acteur. Et là, il y avait à la fois un scénario, puisque j'ai lu les 8 épisodes d'une traite, ce qui est rare, généralement, les scénarios, c'est toujours rébarbatif, ça vous tombe toujours des mains. Et là, j'ai lu ça, vraiment, je m'y suis mis à 10h du matin, et à 16h, j'avais lu les 8 épisodes. Et ensuite, mon personnage, qui était intéressant, parce que porteur d'un passé, d'une blessure. Et donc, c'est toujours des rôles comme ça, à faille, qui sont... à jouer pour le coup assez ludique. Et puis ce qui a achevé de me convaincre, c'est la rencontre avec Alexandre Laurent, le réalisateur, qui est un garçon qui est à la fois un directeur d'acteur, mais qui a un véritable une façon de filmer très originale, très moderne.
Moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que on a l'habitude de voir nous faire rire sur scène avec cette expérience-là. Et là, bah, c'est un rôle complètement différent, beaucoup plus taciturne. Et c'est ça qui est intéressant aussi à jouer. C'est que là, on retrouve un homme complètement différent de l'homme de la scène que vous êtes.
Bah, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours eu la chance de qu'on me propose des choses qui étaient loin de mon personnage d'humoriste. Et c'est pour ça que j'y vais. C'est-à-dire que... ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de surprendre, c'est de se renouveler, c'est de s'amuser. Et on s'amuse quand on s'attaque à des univers différents. Et moi, je suis pas là pour faire Stéphane Guillon dans une série de TF1. Je suis là... d'ailleurs, c'est les retours que j'ai eus. On m'a dit, on oublie tout de suite que tu es Stéphane Guillon. Ce qui est pas évident quand vous êtes marqué autant par un personnage qui a été le mien, qui déplaît ou qui plaît. Personnage clivant. Et donc que tout d'un coup on oublie l'humoriste pour être avec un flic au 19e, je trouve ça chouette.
C'est la plus belle des récompenses.
Oui, ça veut dire que le travail a été bien fait, quoi.
Exactement. Vous aviez connaissance de cette histoire? Vous étiez documenté un petit peu avant de tourner cette série? Vous l'avez découvert au fur et à mesure, du coup?
Non, mais je dirais que peu de gens connaissent ce fait divers, parce que c'est vrai que on s'y intéresse maintenant parce que la série sort, mais... je crois que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, mais après, comme disait La Fontaine, sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. C'est-à-dire que toutes ces catastrophes, finalement, qui ont marqué des générations, on finit par les oublier.
Votre meilleur souvenir de tournage, Stéphane?
Je dirais que c'est les 20 jours que j'ai passé là-bas, puisqu'il n'y a pas eu un meilleur souvenir que d'autres. Ça a été un plaisir. Vous savez, nous, on joue, on veut être acteur pour se déguiser, pour incarner des personnages, pour jouer finalement, c'est l'art du déguisement. Donc pouvoir tout d'un coup se transformer en personnage du début du 20e, mettre un costume, les habits, les costumes, et le travail sur les costumes était incroyable. Quand vous êtes dans un costume contemporain ou une époque contemporaine, le décalage n'est pas aussi marqué que quand tout d'un coup vous jouez comme ça une série historique.
Des projets pour cette fin 2019 et début 2020?
Une tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse à partir de janvier. Et un guest sur une série pour France 2, là, un joli personnage. Je continue mon petit bonhomme de chemin.
Sur quelle série?
Astrid et Raphaël.
Ah oui, avec Sarah Mortensen et Lola Devers.
Exactement, on ne peut rien vous cacher, cher ami. Bravo.
Bon, bah merci beaucoup, en tout cas, Stéphane, d'avoir été avec nous. On va suivre ces deux derniers épisodes attentivement, du Bazar de la Charité. C'est cette semaine sur TF1, c'est l'événement, bien évidemment. Merci et à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt. Merci.
Je m'ai tellement manqué.
Lundi prochain, la suite du Bazar de la Charité.
Vous pouvez compter sur moi, le procès de Victor Mainville sera exemplaire et sans appel.
J'ai des choses à vous dire.
À propos de quoi?
L'incendie du Bazar de la Charité.
Tu nous as détruits, Alice. Alors maintenant, tu vas faire un démenti.
Jamais, tu m'entends?
Depuis l'incendie, madame, elle a bien changé. Comme si c'était une autre femme qui était sortie des flammes.
Si je retrouve l'homme qui a mis cette petite larve dans le ventre d'être, moi je le crève!
L'invité d'honneur de la semaine.
Round, get around, I get around, get around, round, round, I get around, get around, get around.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire, vous êtes si des siècles nous séparent et mon cœur s'égare, un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Et à l'approche des fêtes de fin d'année, eh bien là aussi c'est peut-être un cadeau à vous faire, c'est aller voir Laurent Voulzy en concert. Et justement Laurent est avec nous, il va être en tournée un petit peu dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine et du côté de Paris également au printemps. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Chute, on écoute la télé. Une tournée de concert dans les plus belles églises de France, dans les plus belles cathédrales. Et ça sera le cas, par exemple, le 13 et 14 décembre à Bergerac à l'église Notre-Dame ou encore à Montauban. Le 12, ça sera également à la cathédrale Notre-Dame. Ça passera par l'église Saint-Sulpice de Paris, à Rethel, Sarreguemines. Bref, ça ne s'arrête pas. Une très très belle tournée en cours.
Oui, oui, ben écoutez, on a plus de 100 concerts dans les cathédrales, les églises collégiales, les abbayes. C'est une merveilleuse tournée, ouais, vraiment merveilleuse.
À quel moment, Laurent, vous vous êtes dit, j'ai envie d'aller faire un peu la tournée des églises, des cathédrales et avoir une ambiance différente? Parce que moi, j'ai pu la vivre à Sainte il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'est autre chose qu'une salle de concert.
C'est oui, bien sûr que c'est différent. Écoutez, ça vient de mon enfance. Comme j'explique, des fois, je le dis un petit peu aux gens dans la... Je demande pourquoi je suis là dans les cathédrales. J'ai une passion pour l'histoire et notamment le Moyen-Âge depuis mon enfance, depuis 8-10 ans. Ensuite, une passion pour les cathédrales depuis l'âge de 18 ans, 20 ans, quand j'avais acheté un livre qui s'appelait « Le mystère des cathédrales ». Et j'ai commencé à me passionner par ces édifices extraordinaires. Et après j'ai des réflexions des peu spirituelles, quoi. Je me pose des questions sur la raison pour laquelle on est là. J'ai l'impression qu'on a un voile devant les yeux et que on fait un passage sur terre et on ne sait rien, quoi. On fait des découvertes magnifiques, mais en fait il y a des choses qu'on ne saura pas. Et je me pose ces questions là et notamment où on était avant, si on sera quelque part après, etc. Donc ça, c'est des réflexions un peu d'ordre spirituel. Et puis, j'aime la musique. Et donc, ce qui fait que je réalise, en chantant dans les églises, je réalise quelque chose qui est total pour moi. Alors, j'avais vécu cette expérience après un album qui s'appelait « Listen Love », où j'avais chanté dans trois églises notamment remarquables, notamment la Basilique Saint-Denis à Paris, cathédrale où il y a tous les rois de France enterrés, et puis l'église Saint-Eustache, et puis... Une église près de Westminster à Londres. J'avais adoré. On m'a proposé il y a un an et demi de est-ce que ça m'intéresserait, j'aurais envie de venir chanter dans les cathédrales, les églises, etc. Et j'ai dit oui sans hésiter, quoi. Alors que j'étais parti sur un autre projet d'écriture. Mais ça me plaît trop, quoi. Donc, voilà. Voilà. Et pour l'instant, on continue, quoi. Voilà. C'est formidable.
Savant mélange d'anciennes chansons, des nouvelles aussi. Tout le monde y trouvera son compte, y compris les amoureux du duo Souchon. Vous le dites.
Oui, oui, écoutez, j'espère que les gens ont l'air vraiment contents, puis sinon il n'y aurait plus personne dans les... ils viendraient nous voir. Non, ça se passe, c'est merveilleux. Et effectivement, il y a un peu des chansons plus anciennes, un peu plus récentes, et des reprises aussi, comme My Sweet Lord, où toute la salle chante Alléluia et tout, c'est formidable. Mais c'est pas des chants du tout religieux, mais c'est juste, comme me disait... un responsable, un évêque me disait, vous ne faites pas des chants religieux, mais il y a quelque chose de spirituel. Oui, sinon je passerais dans des clubs ou dans des zéniths, quoi. Là, pour chanter dans les églises, il faut avoir un répertoire adapté, simplement, qui rentre en résonance avec. Il n'y a rien de sacrilège. Je pourrais chanter Recollection ou je sais pas quoi. Mais non, j'ai pas envie, parce que si je le fais avec une guitare comme ça, dans un petit sketch que je fais, enfin, une petite parlotte que je fais avec les gens, non, j'ai envie de chanter des chansons qui rentrent en résonance avec les lieux, quoi. Vous savez, quand je suis chez moi, j'écoute beaucoup de chants du Moyen-Âge et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose auquel je tiens, de chanter des choses qui sont en résonance. De toute façon, sinon, on ne nous accepterait pas. Donc on est passé dans des endroits aussi, comme le Mont-Saint-Michel, où il n'y a jamais eu de concert pop. Mais c'est parce que ils ont entendu, ils sont venus voir un peu ce qu'on faisait. La cathédrale de Chartres, pareil. Et je suis entouré magnifiquement, à la fois par... deux musiciens, musiciennes et chanteurs exceptionnels. Alors, notre chef musical, Michel Amsalem, qui joue des claviers et qui en plus utilise à merveille toute la technologie moderne, les claviers, les ordinateurs, les sampleurs, etc. Puis alors aussi, simplement, de jouer du piano tout court, quoi, ou de l'orgue. Et puis, Naomi Green, qui joue de la harpe, qui joue de la guitare, qui chante magnifiquement, qui fait aussi, elle, de très belles chansons. Et voilà, et donc voilà, en plus on a l'équipe est formidable. Alors, on est très peu, donc on est juste trois à faire, à jouer et chanter. Et puis on a une équipe technique qui est super. Il y a une très belle ambiance, quoi. C'est vraiment un régal, quoi.
J'ai l'impression que vous livrez beaucoup aussi personnellement. Peut-être que moi j'ai eu la chance de vous voir d'autres fois aussi en concert, même y compris en duo avec Alain. Mais j'ai l'impression que celui-là, vous parlez beaucoup aux gens, besoin de se confier, de parler, de partager, peut-être encore plus sur cette tournée.
Oui, je parle un peu plus. Ouais, je parle beaucoup moins d'habitude. Je parle un peu. Alors bon, j'espère que je saoule pas. De toute façon, je demande dans mon entourage ce que je vous saoule. Ils me disent non, c'est rigolo, c'est sympa. Donc je raconte des petites histoires à la fois. Des trucs un peu historiques comme l'histoire de Charles d'Orléans, mais aussi que cette chanson, son poème m'avait touché parce que j'avais, c'est mon cœur qui parlait. Et puis voilà d'autres histoires, des raisons pour lesquelles je suis là, des histoires avec Alain, comment on écrit les chansons, etc. Voilà. Puis on fait de la musique, quoi, et on chante.
Le rendez-vous est pris 13 et 14 décembre à Bergerac. Ça sera le 12 à Montauban. Ça passera également du 22 au 24 avril à l'église Saint-Sulpice de Paris. Le 6 mai à Rethel. Le 22 janvier, on aura la chance de voir aussi à Sarreguemines. Ça sera dans l'Est. À Erstein également le 23 et le 30 à Bailleul. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin d'année pour terminer, Laurent?
Non, écoutez, c'est très gentil de continuer à, ce que vous pouvez me souhaiter,
des belles fêtes.
Ce que je vous souhaite, des belles fêtes, de continuer à passer des journées le plus agréables possible, le moins stressantes possible et le plus de bonheur. Enfin voilà, de vivre le temps présent, profiter du temps présent, essayer qu'il soit bien, quoi. Voilà.
Et nous, on va continuer à profiter du temps présent avec encore quelques petites chansons de Laurent Voulzy. Merci Laurent.
Merci beaucoup. Merci.
J'ai le cœur grenade.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on démarre notre spécial docteur. Après notre spécial Miss France, on a commencé en beauté cette émission avec Vaïma Lama Chavez et nos trois Miss de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, on va continuer. Je sais que les garçons sont contents puisqu'on a deux invités encore de choix avec un très beau film qui sort mercredi dans les salles que nous, on a eu la chance de voir en avant-première qui s'appelle Docteur. Et on a son réalisateur qui est avec nous, Tristan Segala. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Hakim Jemili qui est avec nous. Hakim Jemili qui est avec nous. Je savais que j'avais fourché à un moment donné. Salut Hakim.
Salut, c'est un plaisir.
Merci d'être avec nous également. On va parler de ce film avec Hakim et Michel Blanc, les deux vedettes du film. Et on rigole beaucoup tout le long. Moi, je vous assure, vous avez passé certainement un très bon moment. Mais Tristan, déjà, alors on s'était croisés sur 16 ans ou presque il y a quelques années. Et là encore, on est dans une comédie. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de départ de cette histoire?
Ah, l'idée de départ, elle est pas venue toute seule, elle est pas venue tout de suite. C'est un long travail, un long processus pour arriver à l'idée du film. Et l'idée du film, si vous le savez pas, c'est un médecin interprété par Michel Blanc, qui a 60 ans, qui travaille seul dans sa voiture la nuit de Noël parce que c'est un SOS médecin, c'est un médecin de nuit, qui fait des visites chez les patients la nuit, comme ça, chez les gens. Et il est seul de garde cette nuit-là, c'est Noël. Il est pas en grande forme. Pour ne rien cacher, il est même tellement pas en forme qu'il va envoyer un livreur Uber Eats soigner les patients à sa place. Et en fait, cette idée-là, qui est l'idée du film, j'ai mis, je pense, 3 ans à la trouver à partir du moment où je me suis dit que je voulais faire un film sur ce médecin. Et le moment où je me suis dit que ce film, ça allait être ce que je viens de vous raconter, il y a eu 3 ans. Voilà. Et après, il y a encore eu 2 ans d'écriture pour que ça devienne un scénario que j'envoie à Michel Blanc. Voilà.
Alors là, il a été tout de suite, il a tout de suite adhéré au projet.
Oui, j'osais à peine l'espérer, mais évidemment, je l'espérais un peu, sinon je l'aurais pas envoyé. Pour moi, c'était mon médecin de rêve, quoi. Enfin, le héros de mon film, etc. Je suis fan de Michel Blanc depuis toujours, et je trouve que le rôle lui allait comme un gant. Donc, je me suis dit, voilà, j'espérais qu'il en soit, et il m'a dit que. Voilà, je le connaissais pas, mais on s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il avait adoré le script et il était touché par ce rôle. Il avait envie d'être ce médecin. Je pense après les comédiens, ils vont pas chercher beaucoup plus loin. En revanche, qu'il fallait trouver maintenant, c'était son partenaire dans le film. Et là, j'ai fait un énorme casting. Michel a entre guillemets accepté l'idée que je lui propose comme partenaire quelqu'un qui ne connaît pas. Et j'ai vu 150 comédiens et Hakim s'est détaché plus que naturellement. Il était pour moi une évidence. Je le connaissais pas avant, mais il était une évidence à partir du moment où j'ai vu ses essais. Je suis allé le voir aussi jouer son spectacle dans une petite salle à Paris. Là, il m'a définitivement conquis parce que il était absolument hilarant, génial, brillant, intelligent. Enfin, tout ce que j'attendais de ce rôle. Et du coup, j'ai montré les essais d'Hakim à Michel sur mon ordinateur. Voilà, j'ai donné rendez-vous à Michel, on s'est vu dans un café. Et là, j'ai joué gros parce que je me suis dit, j'espère que Michel pensera la même chose que moi. S'il se marre pas devant le flow d'Hakim, parce que Hakim, c'est un flow, c'est une voix, c'est un regard, un sourire, enfin, sa présence, tout ça, ça va pas le faire. Et en fait, il s'est éclaté de rire tout de suite. Au bout de 20 secondes, il était déjà en train de se bidonner derrière l'ordinateur. Donc je me suis dit, ça, c'est bon. Voilà.
Il a tellement une bonne bouille, en fait, c'est que même si à la limite tu apprends qu'il est pas médecin et qu'il vient pour te soigner, mais que t'apprends qu'il est pas médecin, t'as envie qu'il te soigne. Parce qu'il a tellement une bonne tête, en fait, dans le film, c'est absolument fou.
Ce que je cherchais, c'est Malek dans le film. C'est une comédie de duo. Dans les comédies de duo, le duo doit être complémentaire. Évidemment, Michel, il est plus âgé que Malek, il est plus petit que Malek. Et comme autre grosse différence entre eux, c'est que Michel, en tout cas, ce qu'il joue dans le film, il le fait à merveille, il est bourru, il est pas toujours forcément sympathique au premier abord. Évidemment, il va s'ouvrir dans le film, il va se détendre, etc. Mais c'est quelqu'un qui excelle dans un registre acerbe, caustique, etc. Et Malek, et aussi du coup Hakim l'interprétant, c'est le contraire. Il est radieux, il est bon et on sent qu'il triche pas. Et du coup, ce contraste-là, en fait, il était génial à mettre en scène. Voilà. Je suis une agence matrimoniale, j'ai organisé une rencontre un peu improbable, mais je me doutais qu'elle allait pouvoir faire des étincelles, quoi.
Voilà. Hakim, oui. Ta première rencontre avec Michel.
Alors, déjà, ça fait plaisir. On s'est rencontrés dans les bureaux de production très très vite. On s'était juste serré la main assez rapidement, de manière assez normale. On n'a pas discuté plus que ça. Et puis ensuite, la vraie rencontre, elle a eu lieu sur le plateau le premier jour du tournage. Donc c'était en gros la première fois que j'ai parlé avec Michel concrètement, c'était les textes du film. Voilà, donc c'est ouf. Hein. Et on s'est très très bien entendu tout de suite.
Une appréhension ou pas? Tu t'es dit voilà, je vais jouer avec Michel Blanc. Enfin, c'est juste énorme. Justement, tu t'es détaché un petit peu de ça pour pas te mettre la pression.
Bah si, pour être honnête, j'avais quand même la pression, hein. C'est normal, je pense. C'était ma première fois au cinéma, en plus commencer avec Michel Blanc, donc c'est, effectivement j'avais la pression, mais ça s'est très vite estompé, très vite dissipé, parce que justement j'avais beaucoup de chance sur ce tournage, j'étais entouré de gens bien. Et puis avec Michel Blanc, on s'est entendu très très bien tout de suite, il m'a mis à l'aise, on a beaucoup discuté entre les prises, de toute façon on était amené beaucoup à rester dans la voiture aussi, on a bien sympathisé. Et franchement, au bout de 2 jours, j'avais plus de pression. Et puis de toute façon, je pouvais pas venir sur le plateau avec tant de pression que ça, parce que sinon, le film aurait été merdique. En tout cas, moi, j'aurais été merdique, et puis automatiquement, les scènes auraient été merdiques, ça aurait été dommage. Donc non, je me suis mis la pression avant. Je me suis mis la pression avant, beaucoup avant. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avant. Avec l'aide de Tristan, on m'avait donné pas mal de conseils, parce que c'était la première fois aussi. Avec l'aide de Franck Gastambide aussi, qui m'a beaucoup aidé. Ma femme aussi qui m'a fait répéter. Enfin, j'ai appris mes textes avant. Je me suis mis en condition avant pour que justement le jour J, je puisse être au niveau et à la hauteur.
Et une petite part d'improvisation sur certaines scènes. Toi qui viens du stand-up, qui est habitué à improviser devant des centaines de spectateurs, est-ce que à un moment donné, t'as eu quelques petites parts d'improvisation que Tristan a validé justement au moment du tournage?
Bah, c'est là où je vous parle de chance. C'est parce que j'ai l'impression que toutes les planètes se sont alignées me concernant. Dans le sens où Tristan, il m'a laissé beaucoup de liberté, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a laissé lui proposer beaucoup de choses. Après, il aime pas, hein. Mais en tout cas, il m'a jamais freiné sur des textes, sur des improvisations, sur des. Même parfois, j'allais voir, je dis ouais, je vais avoir une idée. Tu penses que je pourrais dire ça pendant? Il me disait soit oui, soit non, en fait, simplement. Mais il m'a jamais dit ne fais pas. Et puis parfois même, je prévenais pas ou quoi. Et puis je tentais plein de trucs. Au contraire, ça m'a mis à l'aise le fait que il m'encourage justement à faire ce genre. Parce que s'il m'avait dit de pas le faire, je l'aurais pas fait. Parce que de toute façon, le texte, je l'avais sans les improvisations. Mais vu que je l'avais bien, je m'étais justement permis de me lâcher.
Ça aussi, ça va dans le sens de la complémentarité de ce duo-là. C'est que Hakim, quand on tournait, il varie énormément d'une prise à l'autre. Mais c'est toujours bon. C'est ça qui est génial. Et Michel en face, il colle au texte. Il improvise absolument pas. Et les variations sont infimes d'une prise à l'autre avec Michel. C'est vraiment, c'est un Stradivarius très 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 bien accordé. Franchement, il y a pas, voilà. Et du coup, de les mettre l'un en face de l'autre, ça aurait pu donner des trucs bizarres. Mais en fait, je pense qu'ils se sont tous les deux, pour Hakim, je pense que c'était très réconfortant de savoir qu'en face, il y avait quelqu'un qui, entre guillemets, renvoyait toujours la même balle. Et pour Michel, qui en a vu d'autres, je pense que ça lui a fait énormément de bien d'avoir justement un type qui jouait un coup lifté, un coup coupé, un coup inamorti, un coup à lob, etc. Et ça l'a vachement stimulé, Michel. Et du coup, je pense qu'ils se sont éclatés à jouer, je parle pour eux, mais ils me l'ont dit, et je sais, et je crois que ça se sent à l'image, je crois que ça se voit, je crois que ça s'entend, je crois que c'est un des trucs qui fait que si les gens aiment le film, c'est, ce sera pour ça. C'est que il y a cette magie-là qui opère, voilà.
Alors ça se passe une soirée de Noël, on va y revenir dans un instant puisque là on est allez, à deux semaines, un petit peu plus de deux semaines de Noël. On va écouter tout de suite la bande-annonce pour voir ce que ça donne. Docteur, c'est mercredi au cinéma, écoutez.
Bonsoir, c'est le docteur Nanounani Nani.
Mamou Mani, bordel.
Bonsoir docteur.
Il y avait 38,2 il y a une heure.
On va la reprendre quand même.
On va la reprendre quand même.
Bon les mains.
32 degrés.
Recommence en essayant de viser le front s'il te plaît.
Bonsoir docteur.
Bonsoir docteur.
Super.
C'est ouf ce truc, hein?
Ah. Oula, qu'est-ce qui se passe?
Docteur, qu'est-ce qui m'arrive?
Bah, vous venez de vous pisser dessus, en fait, là.
Mais pas du tout. Alors, docteur, vous voyez quelque chose? Docteur?
Allez, on va revenir dans un instant, notre spécial docteur avec Tristan Segala qui est avec nous et Hakim Gemili qui sont nos invités pour nous parler de ce très beau film. Vous restez avec moi, les garçons?
Bien sûr, on reste, hein.
Je ne bougerai pas.
Bon, voilà, on est entre hommes maintenant. On a démarré l'émission entre filles, maintenant c'est entre hommes. Allez, c'est comme ça. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour pour notre spécial docteur avec nos invités, Hakim et Tristan, qui sont avec nous. Alors moi, la première chose qui m'a frappé en voyant le film, je me suis dit, ils ont dû en baver un peu, parce que c'était un tournage quasiment que de nuit, tout le temps, Tristan.
Bah oui, c'est sûr qu'on en a bavé un peu. En même temps, c'est que deux mois un tournage, donc on était tous prêts à faire ce sacrifice. Il y en a des pires, mais pour être tout à fait honnête, je pensais que j'allais être plus résistant que ça, moi. Au bout de la moitié du tournage, j'étais complètement rincé. J'en pouvais plus. Je commençais à attraper le moindre virus qui passait, etc. Et à la fin, c'était même éprouvant. Voilà. Mais ils sont peut-être pas tous dans mon cas. Hakim, je crois qu'il s'en est mieux tiré que moi. Il est plus jeune aussi. Hein. Ça aide.
T'as tenu, toi, Hakim ?
Ouais. Moi, j'ai tenu, oui. Après, très certainement la jeunesse. On va pas se cacher, Tristan. Et non, moi, j'ai tenu parce que tout simplement, j'étais trop content d'être là. Moi, en toutes circonstances, je pouvais pas être fatigué. Je pouvais pas me permettre de dire que je suis fatigué. Qui que ce soit.
Quel est ton meilleur souvenir, Hakim, de tournage? Est-ce qu'il y a une scène qui, pour toi, ressort particulièrement? Alors évidemment, on peut penser des scènes avec Artus ou avec Franck Gastambide qui sont vraiment hilarantes dans le film qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce, mais il y a eu vraiment des scènes très très drôles, à mon avis, à tourner, où tu as dû avoir du mal à garder ton sérieux.
Celle citée à l'instant, effectivement, c'était très compliqué à tourner avec Artus, avec Franck. En plus, Franck, c'est un ami très très proche que je connais... très 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 bien. Et Arthur, je le connais aussi très bien, mais sous d'autres formes. Mais c'était extraordinaire de jouer avec ces deux. Et là, évidemment, parce que on connaît tous leurs talents. Mais moi, je pense que la scène qui m'a le plus touché, que ce soit humoristiquement ou sentimentalement parlant, je crois que c'est celle avec ma femme, quand même, à la fin du film, avec Fadili, donc.
Scène avec Fadili Camara.
Ouais, Fadili Camara, ouais, qui est mon épouse dans la vie aussi. Et ben, c'était émouvant de jouer avec elle. C'était stressant, émouvant et puis très drôle. Donc c'était ça doit être les deux jours où j'ai le moins kiffé, tu vois, tourner. Mais c'est sûrement ceux que j'apprécie, que j'ai le plus apprécié. Tu vois, c'est bizarre un peu comme sentiment. Hein.
Toi, t'as une scène, Tristan, que tu redoutais un petit peu à l'écriture, que tu t'es dit celle-là va peut-être pas être facile à mettre en boîte. Et des fois, c'est le contraire. C'est des fois celles qui peuvent paraître le plus faciles et qui sont les plus compliquées.
Alors, je veux pas répéter ce que vient de dire Hakim, c'est dommage, mais je suis honnête, c'est celle-ci, la scène finale un peu avec Michel, Hakim et Fadili, qui est une scène où il se passe, je peux pas tellement dire ce qui se passe que je veux pas trop dévoiler, mais c'est une scène que je redoutais et qui d'ailleurs s'est tournée dans des conditions de stress parce que c'était intense, parce qu'il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de tension sur le plateau, parce que c'est une scène de tension. Et ce que j'ignorais jusqu'au montage, c'est est-ce que cette scène allait être drôle, en fait. Et c'est ça qui me faisait peur, parce que je savais que c'était une scène qui pouvait être poignante, parce que c'est un moment poignant de la vie des personnages qui se jouent là. Mais est-ce que le public va rire? Parce que si le public ne rit pas pendant cette scène, elle est ratée. mais je voulais qu'il rie à gorge déployée et beaucoup. Et en fait, quand j'ai monté la scène, j'en avais pas encore la certitude. Et c'est que quand j'ai commencé à montrer le film au public.
Et tu as demandé à Hakim de se cogner la tête, et là, évidemment, ça a provoqué l'hilarité du public.
Ça, en plus, le pire, c'est qu'il s'est cogné la tête sans faire exprès. Donc ça, c'est vraiment marrant. Mais quand j'entends les salles rire à ce point pendant cette scène, là, c'est vrai que je suis content. Je suis content parce que je me dis là, au moins, sur ce coup, je pense avoir à peu près réussi ce que je cherchais. Voilà. Et là, je suis vraiment très content à chaque fois que j'entends. En plus, là, on commence à montrer le film beaucoup et c'est la fin du film et je tiens absolument à assister à ce moment-là à chaque fois. Donc, j'ai revu 30 fois, 40 fois, même plus, 60 fois, en fait, la fin du film, souvent avec Hakim à côté de moi. Et c'est quand même Hakim et lui, il se voit, il y a sa femme à l'écran, etc. Enfin, tout ça est très, et c'est marrant. Pour moi, l'émotion, elle est renouvelée à chaque fois. C'est un truc, je suis complètement drogué à cette fin de film et ce qui se passe, et je suis drogué parce que j'entends des salles, rire tout entière, quoi. Rire d'un seul homme, d'un seul rire, d'une seule voix, voilà, à l'unisson. Et ça, c'est, pour moi, c'est un bonheur, quoi, voilà.
Il est vrai qu'il y a tout plein de choses pour lesquelles on peut appeler un médecin. Dans la nuit, on le voit, tout plein de situations rocambolesques, comme appeler un médecin en urgence pour avoir un arrêt de travail parce qu'on part le lendemain en vacances. Voilà, il y a tout plein de petites scènes comme ça, où juste un bobo tête. Et là, il est vrai que cette dernière scène est la chose pour laquelle est appelé le docteur. Voilà, est très très émouvante. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les médecins aiment par-dessus tout leur métier. Ça doit faire partie, en tout cas, d'une des choses pour lesquelles ils aiment le plus leur métier. Dernière question. Comment on se sent là, deux jours de la sortie? Est-ce que ça panique un peu là?
Bah comme vous voyez, je suis quand même torse nu à l'heure actuelle là, donc on transpire.
C'est très radiophonique, c'est dommage que vous avez pas l'image.
C'est dommage, hein, parce que là Tristan il transpire, je vous le dis. Non, bon, on a hâte que vous découvriez ça là, on est chaud là, hein. On est très très chaud, hein. J'ai envie d'aller dans toutes les salles et voir ce que les gens en pensent dans toutes les salles. J'ai envie d'être partout en même temps.
Et toi Tristan?
Ouais, moi aussi, on est hyper stressé évidemment. Je sais pas comment je vais dormir ce soir et encore moins comment je vais dormir demain, voilà. Mais on a hâte.
Nous, en tout cas, on vous souhaite plein plein de succès. Docteur, c'est mercredi au cinéma. Allez le voir, faites-vous voilà votre propre idée et vous verrez, vous allez passer un bon moment, j'en suis sûr. On va se requitter avec un petit extrait. Merci Tristan et merci Hakim d'avoir été avec nous pour en parler, pour terminer cette émission. À très vite.
À très vite. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Docteur.
Oui, quoi?
Fièvre pour toi dans le 18e. T'es tout seul cette nuit.
Vous faites chier, hein? Vous habitez ici?
Ah, j'aimerais bien, mais...
Je sais que Noël, c'est dur pour toi, mais un jour, j'arrêterai de te couvrir.
T'inquiète, je gère.
Ah, putain!
Je peux pas bosser ce soir.
Faut que je te dise comment. T'es tout seul.
Bien, l'esprit de Noël, hein.
Y'a personne pour vous remplacer? Vous êtes sûr qu'il y a OK, l'histoire?
Fais ce que je te dis et tout se passera très bien.
Docteur? Oui, c'est moi-même.
Et j'ai très très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard.
Bah on peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto.
Et plus c'est Noël, non?
Fais gaffe mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Hein.
Il a un bouchon qui lui obstrue le rectum.
Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair? Ça arrangerait tout le monde s'il vous plaît.
Il a de la merde séchée qui lui bouche le trou du cul, et toi tu viens de lui proposer de le déboucher. C'est clair comme ça?
Beaucoup trop.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, on n'aura pas un coup de cœur ciné, mais on en aura deux. Eh bien oui, puisqu'on prendra un peu d'avance. Tout d'abord, on aura déjà une spéciale Notre-Dame, le nouveau film de Valérie Donzelli, qui sera notre invité exceptionnel, accompagné de ses comédiens. Le film Notre-Dame sortira le 18 décembre sur vos écrans. Et puis deuxième coup de cœur ciné, c'est Les Vétos, qui sortira le 1er janvier. Eh bien cette occasion, lundi prochain, on recevra Julie Manoukian et Clovis Cornillac. Des rendez-vous bien évidemment à ne pas manquer, plus plein d'autres surprise, vous vous en doutez.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain sur Radio Grand Air à 10h20 et 16h20 pour les quotidiennes. Retour de l'hebdo lundi prochain à 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.